Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers auditeurs de Canal Académie, bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages, où j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas académicien, académicienne en l'occurrence, mais qui porte en elle une part au moins de l'esprit de l'Académie, l'Académie française. Un esprit dont elle a pu, dans son enfance, observer les traces, écouter les vibrations, goûter les fastes même, le recevoir en héritage en quelque sorte. Et il suffit pour s'en convaincre de regarder une photo, celle publiée en couverture de l'ouvrage de Micheline Cellier-Gély, consacré à André Chanson. On y voit ce dernier, dans la cour de l'Institut de France, le jour de sa réception à l'Académie française, c'était le 17 mai 1957, accompagné d'une petite fille qui se tenait un peu à l'écart. Sa petite fille. Eh bien, sa petite fille est là, aujourd'hui, dans nos studios. Catherine Vell, bonjour.
Bonjour François Nizeri, j'adore ce que vous venez de dire. La photo dont vous parlez, où je suis à l'écart et proche en même temps de mon grand-père, est une photo que j'adore. Vous remarquerez que nous marchons côte à côte, une toute petite fille, un petit bout de chou et un homme assez sévère en tenue d'académicien. Et j'aime le fait qu'il ne me tienne pas par la main. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, le lien me semble plus fort avec ce grand-père que s'il me tenait par la main.
Eh bien voilà, une entrée en matière, comme il se doit. Catherine Vell, donc petite fille d'André Chanson, je l'ai dit, fille de Frédéric Hébrard et Louis Vell, a reçu l'héritage d'une famille d'écrivains et n'a donc pas pu échapper au virus de l'écriture. Elle a déjà écrit 3 romans, dont le dernier, Sœur Chocolat, paru en 2007 aux éditions Anne Carrière, alimentera, si j'ose dire en parlant de chocolat, l'essentiel de cette émission. Catherine Vell a été aussi, comme sa mère, comédienne et a exercé le métier de publicitaire, ce qui l'a conduit aujourd'hui à la tête de la direction de la communication du groupe Marie-Claire. Alors Catherine Vell, pour commencer cette émission, je voudrais vous proposer de nous attaquer, si j'ose dire, aux Sœurs Chocolat. Racontez-nous d'abord ce qui vous a poussé à écrire ce livre, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il sort des sentiers battus. Bâtir tout un roman autour d'un couvent de bonnes sœurs, il fallait oser.
Oui.
Il fallait oser faire de ce couvent l'arrière-plan d'une histoire faite aussi de violence et de haine. Sœur Chocolat, c'est cela d'abord, me semble-t-il. Un curieux mélange de spiritualité limpide et d'humanité débridée. Deux petites bonnes sœurs de l'abbaye de Saint-Julien du vaste monde. Tout un programme. Envoyées dans la jungle colombienne à la recherche de la source de production de fèves de cacao, qu'il est vital pour leur communauté de consolider, car elle en vit, mais qui attise aussi la jalousie de concurrents peu scrupuleux. Deux petites bonnes sœurs comme ça confrontées au pire et qui se redécouvrent finalement, femmes, avec leurs désirs, avec leur beauté, avec leur héroïsme. Et alors au bout du compte, la question que je me suis posée, c'est de savoir si une telle histoire, qui met en scène un lieu qui est d'abord un lieu de silence, ne reflète pas finalement un véritable besoin de notre monde actuel, besoin de silence. Après tout, vous avez écrit aussi par le passé le silence des sources. Est-ce que notre monde n'est pas finalement une quête permanente de répondre par le silence aux fureurs qui l'entourent ? Je vous en prie, Catherine Vell.
Alors c'est très joli tout ça, je ne savais pas que je faisais du silence ma première parole, mais je pense que le silence compte déjà beaucoup pour moi qui suis très bavarde, parce qu'il y a tout un tas de silences, il y a les silences mystérieux, il y a les silences habités, il y a les silences qui sont bruissants de petits bruits auxquels on ne fait pas toujours attention et que moi j'écoute, le bruit des ailes, des papillons, des mouches, des choses comme ça. Alors pour revenir à Sœur Chocolat, quand vous me dites c'était gonflé cette idée de parler de deux bonnes sœurs, vous remarquerez souvent les gens disent deux vieilles bonnes sœurs alors que mes héroïnes sont jeunes.
Petite bonne sœur.
J'avais petite bonne sœur aussi. J'avais envie, plus que l'idée, j'avais l'envie parce que l'écriture, même si c'est un travail, un moment de solitude, c'est toujours quelque chose de jubilatoire, c'est très important. J'avais envie de raconter une histoire parce que on m'en avait raconté une avec une tablette de chocolat que ma mère m'avait offerte, qu'elle avait achetée dans une abbaye qui fonctionne aussi en vendant du chocolat, qui a une chocolaterie. Et les deux mots qu'elle avait dit, tu sais, on a eu l'impression quand on a acheté ces quelques tablettes au Monial, nous avons eu l'impression, ton père et moi, que les 3 francs 6 sous qu'on leur donnait était très important pour elle, et effectivement on avait l'impression qu'il y avait presque plus de tablettes de chocolat dans leurs armoires. Et sans le savoir, je crois que j'ai eu une espèce d'écharde créative dans la tête, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe quand elles n'ont plus de chocolat? Et là-dessus, avec mes lectures, j'ai appris qu'une communauté qui ne peut plus subvenir à ses besoins est une communauté morte. Et que tout de suite, vous avez des promoteurs immobiliers qui sont à l'affût pour racheter à bas prix des lieux qui ont été bâtis des siècles auparavant dans des endroits merveilleux, dans la nature, où on ferait un 5 étoiles ou un golf extraordinaire. Et je me suis dit, tiens, là, tu as un enjeu. Ensuite, j'ai rencontré des religieuses dans des abbayes et je suis allée de surprise en surprise. Et il y a une phrase à laquelle je pense souvent, et notamment pour mon travail autour de Sœur Chocolat, ça serait « méfiez-vous des apparences, méfiez-vous des idées toutes faites, méfiez-vous des opinions, les vôtres, ceux des autres aussi de temps en temps ». Quand on parle religieuse, on dit « c'est l'ennui, c'est le silence, c'est pas marrant, c'est pas sexy ». Et je me disais « mais dans quoi tu t'embarques de choisir comme héroïne de roman ces deux filles 40 ans et la novice 19 ans, que tu envoies en mission chocolat, donc trouver des fèves de cacao en Colombie, mais ça ne va intéresser personne parce que les gens vont dire « c'est pas sexy, c'est pas marrant ». Vous voyez, cher François Nizeri, ce que les gens écrivent aujourd'hui, c'est très centré sur le nombril, pour pas dire la vie sexuelle aussi. Et j'étais très très loin de ça. Et en même temps, ce que vous avez évoqué aussi, c'est-à-dire ma connaissance des femmes en général, mais depuis que je travaille au groupe Marie-Claire, me donne à penser que là aussi, il faut se méfier des apparences. Et que la femme la plus discrète, la plus simple et surtout mémoniale, les yeux baissés qui ont fait vœu d'obéissance et d'humilité, eh bien, nous réserve bien des surprises le jour où vous touchez pour les unes au pays, pour les autres à l'homme qu'elles aiment et pour mes deux moniales à la communauté. Donc je me suis dit, voilà, je vais prendre un lieu très peu connu, totalement exotique, aussi exotique que le pays où on va les envoyer ensuite, et je vais essayer de les montrer telles qu'elles me sont apparues aujourd'hui, parce que l'histoire se passe aujourd'hui, et telles qu'elles sont vivantes.
Eh bien, ma deuxième question, Catherine Bell, va être un peu dans le prolongement de la précédente, parce que naturellement, c'est une question qui vient tout de suite. Ce dont j'ai parlé, le combat du silence et des fureurs, pourquoi oui. L'avoir transporté en Colombie? Les fureurs, après tout, elles sont dans nos portes, elles sont dans nos banlieues. Alors pourquoi finalement la Colombie? Je me suis posé la question suivante. Est-ce que c'est parce que la Colombie serait une sorte de symbole, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, gangrénée depuis longtemps par la violence et pourtant imprégnée par une sorte de joie intime et par l'exubérance de l'environnement? Et puis alors, il faut parler aussi un peu du chocolat.
Je voulais, donc comprenez bien l'enjeu, elles ont à sauver leur communauté et je voulais les transporter, ces femmes soumises et obéissantes et croyantes, ô combien, ça c'est un a priori de départ, je voulais les transporter dans l'endroit le plus à l'opposé de ce qu'elles connaissaient, de leur vie calme dans l'abbaye, calme et joyeuse, travailleuse et joyeuse. Et j'ai réfléchi, je pensais à la Corée, ça ne me branchait pas. Et j'ai pensé à la Colombie que je ne connaissais pas. Et quand j'ai commencé à me renseigner comment peut-on aller en Colombie, que j'ai vu à quel point on me refusait les infos, j'ai compris qu'à cause de sa violence, ce pays, j'y suis allée il y a 9 ans et demi à peu près, ce pays était déjà un peu rayé de la carte. Pays macho, pays violent, pays avec des problèmes de drogue, des problèmes de politique. Et je me suis dit, c'est là. Et je me suis embarquée en Colombie pour renifler. Vous savez, j'ai été comédienne, donc je fais mes repérages un petit peu. C'est important quand on a envie de parler des saveurs, des odeurs, des plantes, des animaux, de la musique, etc. Petite parenthèse, ma pauvre mère a cru qu'elle ne me reverrait jamais puisque j'avais juré faire un saut à l'ambassade, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était le jour de mon départ de Colombie, où j'avais enfin une demi-heure pour les rencontrer. Tout le reste avait été organisé comme du papier à musique, millimètre par millimètre. Et je me suis plongée, habillée un petit peu comme la petite sœur de Crocodile Dundee. À Bogota, je faisais sourire. Dès le lendemain, quand j'étais chez les Indiens Ticunas au bord de l'Amazone, je ne faisais plus rire personne. J'étais en battle dress comme tout le monde. Et je me suis dit, je veux qu'elles perdent leurs vêtements, qu'on leur vole leurs vêtements. Je ne vais pas les promener toutes nues non plus en Colombie. Donc, je voulais qu'elles soient un peu comme des Indiana Jones. Et j'ai créé, sans le savoir, ce que des amis américains dans le cinéma m'ont dit, la situation qu'ils aiment bien au cinéma, qui est les fish out of the water. C'est-à-dire, mes deux religieuses en Colombie sont comme deux poissons tombés du bocal. Elles quittent le silence, le recueillement, la façon de se découvrir pour la violence, l'exubérance, les Miss Colombie à moitié nues, les dangers, les anacondas, les piranhas, les araignées, la drogue. Et curieusement, eh bien c'est peut-être dans cette fureur exacerbée qu'elles vont se découvrir et être amenées à se poser les vraies questions que peut-être elles n'avaient fait qu'aborder dans la vie douce, studieuse et pleine de chants et de prières qu'elles connaissaient à l'abbaye.
Mais dans cette fureur, dans cette violence, il y a un peu de joie aussi.
Beaucoup. Ben, je ne veux pas tout dévoiler, mais je me suis amusée aussi, quitte à les faire partir en Colombie, autant leur faire vivre tout un tas de choses qu'elles n'auraient même pas imaginées en rêve. Elles partent pleines de certitudes et toutes ces certitudes sont balayées. Quand elles tombent à Bogota, le guide est mort. Elles ne savent plus où on va les mener dans cette vallée secrète des meilleures fèves de cacao du monde. Des gens qui veulent les aider sont toujours, comme par hasard, dès qu'elles se confient, les méchants, on va dire, qui cherchent à prendre leur part de fèves de cacao à la table des négociations, voire à se séparer d'elles de façon violente. On les envoie en forêt vierge en disant où elles meurent et si elles s'en sortent, on les tuera nous-mêmes plus tard. Donc je voulais absolument qu'elles soient confrontées à des choses qu'elles ne connaissaient pas.
Alors, maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de votre passé littéraire.
Oui.
Catherine Bell. La vallée des mensonges et le silence des sources, qui ont été publiés chez Flammarion respectivement en 2000 et en 2001, racontaient déjà une forme de confrontation entre l'innocence et la cruauté, comme si cette confrontation, en quelque sorte, était un condensé de l'humain. Ils racontaient déjà également une chose que vous avez magnifiquement décrite, qui est l'alliance de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, le fameux brin d'herbe que je n'ai jamais oublié, qui ouvre le silence des sources. Ce brin d'herbe qui s'éteint avant que naisse la lumière du jour. Alors, avec Sœur Chocolat, Catherine Bell, est-ce que vous vous sentez en continuité véritable avec la démarche initiale qui vous a poussé à écrire ?
Oh, vaste, vaste question. J'ai envie de dire oui. Après un moment de recul, le livre est sorti il y a 6 ou 7 mois. Sur le coup, je ne me serais pas rendu compte, comme pour les autres livres. C'est avec un peu de recul et quand des gens comme vous nous expliquent ce qu'ils ont vu dans des œuvres, qu'effectivement on se dit « mais oui, c'est vrai, il y a un point commun ». Je crois que j'ai une fascination, non, une tendresse particulière, une écoute en tout cas très forte pour ce que vous appelez l'infiniment petit. J'aime les fureurs du monde, j'aime l'aventure, j'aime le côté rocambole ou romanesque que j'ai mis aussi dans Sœur Chocolat. Mais j'aime aussi m'attacher à ce que je pense que beaucoup de gens ne regardent pas, ne voient pas. Je ne passe pas une journée sans croiser un animal, à Paris, ici. Je croise un animal, c'est-à-dire je ne croise pas quelqu'un qui promène son chien, je croise un animal et nous échangeons un regard. Et c'est très important. Et je voulais que dans ce voyage aussi, qui est le voyage du chocolat, je voulais qu'elles puissent prendre le temps, perdre leur temps, malgré cette mission un peu haletante que je leur ai concoctée. Je voulais qu'elles puissent être arrêtées de temps en temps par des rencontres, par des petites choses, par des brins d'herbe, par une amitié avec une vieille mule. Je pense que l'humain, mon grand-père disait ça, il parlait de l'homme contre l'histoire, l'homme plus fort que l'histoire, même si on en participe. Je suis totalement d'accord, sans que ça soit une démarche intellectuelle, viscéralement je vais vers ça. Je crois à la force des individus, je crois à leur courage, je crois à leur liberté de conscience, oui. Tout ça me semble important et ce ne sont pas des choses qu'on peut peser sur une balance.
Alors, puisqu'on parlait du passé, Catherine Bell, je pense que vous vous rendez compte que vous n'échapperez pas à la question, celle de l'héritage.
Quelle question ? Ah !
Vous êtes l'héritière de sang et d'écriture d'André Chanson et de Frédéric Hébrard. Vous êtes l'héritière du minéral André Chanson, de sa gravité. Je ne dis pas sa gravitude.
Oui. Je préfère.
Du poids de l'histoire des Camisards qu'il portait en lui, de son esprit de résistance, de tout ça.
Oui.
Vous êtes l'héritière de Frédéric Hébras, le bouquet de fleurs. Mmh. C'est André Chanson qui l'appelait le bouquet de fleurs. D'une certaine forme d'innocence poétique, même si cette innocence poétique est elle-même également marquée par le minéral. Vous êtes aussi, il ne faut pas oublier du tout, l'héritière de Louis Velle, votre père, comédien et lui aussi écrivain.
Oui.
Ce que j'ai retenu toujours de lui, c'est qu'il était capable de coucher d'un seul jet des textes qu'il construit et range dans une mémoire prodigieuse.
Fabuleux, oui.
Alors, comment est-ce que vous ressentez cet héritage aujourd'hui ? Je sais, pour l'avoir entendu, que par le passé, vous avez longtemps voulu marquer une certaine distance par rapport à cet héritage. Peut-être pour mieux préserver votre originalité. Après tout, c'est légitime. Alors, qu'en est-il aujourd'hui en 2007 ? Est-ce que vous avez finalement complètement intégré cet héritage en vous ?
Je crois que je fais partie aujourd'hui du bouquet. C'est-à-dire que il y a un bouquet minéral, il y a un bouquet végétal, fleuri, du grand-père André Chanson, de ma mère Frédéric Hébras. Moi, je voudrais être le brin d'herbe qui fait le lien de tout ça, pour reprendre les mêmes images. Mais je suis peut-être la partie animale aussi. C'est-à-dire que tout ça me travaille énormément. Je suis en perpétuel émerveillement devant la création. L'herbe, le nuage et l'animal sont des choses indispensable à mon oxygène quotidien. En ce qui concerne l'héritage, et nous sommes bien d'accord, on parle là d'héritage qui s'emporte les mains vides. Hein. Je n'ai plus ce sentiment peut-être que je vous avais donné il y a quelques années, lors du premier livre, quand nous nous étions rencontrés, de me mettre à part. Je crois que c'est aussi une question d'âge. Un, on est très impressionné par les parents en général. Deux, quand vous avez des parents et des gros-parents, je parle pas d'être connus, mais reconnus, qui ont un talent spécifique, qui ont une plume qui me touche en plus particulièrement. Déjà, j'avais voulu être comédienne comme ma mère et mon père. Je me disais, les gens vont croire que je copie. Ensuite, j'ai profondément voulu écrire. Mais je me suis blindée pour ne pas le faire pendant des années, l'une et l'autre profession. Je me suis dit, mais ces gens vont dire, qui vont me rencontrer, mon Dieu, cette pauvre fille n'a vraiment aucune personnalité. Donc j'ai lutté contre l'héritage, peut-être pour lutter pour ma voix propre. En réalité, tout ça, c'est fini, c'est ce que je vous disais. Je suis heureuse de faire partie du même bouquet. Je me retrouve complètement dans le courage et la résistance des uns et des autres pour exercer le métier ou pour donner la parole à des personnages que nous créons ou que nous pensons créer, peut-être qu'ils nous viennent d'ailleurs, et qui sont des personnages simples souvent, mais qui ont des revers dans leur vie et qui doivent résister, register, comme on dit, dans les Cévennes chez les protestants, même si je suis catholique. Donc, je ne me sens plus impressionnée par cet héritage, j'ai toujours beaucoup de respect. J'ai l'impression que ça y est, je fais partie du tout, et que derrière moi, il y en aura d'autres qui grossiront encore ce tout, ce que vous appelez un héritage.
Eh bien, avec ces paroles, je pense que le moment est venu de peut-être maintenant lire. Lire des passages de Sœur Chocolat que vous avez choisi vous-même et qui, je crois, parleront mieux que tout ce qu'on peut encore dire sur votre livre.
Alors, merci de me donner cette opportunité. Ça a été très dur de choisir. Je me suis arrêtée sur des passages qui sont presque uniquement consacrés à la vie dans l'abbaye. Parce que quand je parlais d'exotisme, c'est vraiment un endroit qu'on connaît très mal. La vie dans les abbayes n'a pas beaucoup bougé depuis la règle de Saint-Benoît du XVIIe siècle. Et la Colombie, je laisserai aux lecteurs qui en auront envie la possibilité de la découvrir par eux-mêmes. Donc l'abbaye. Du haut des collines qui la saignaient d'une protection minérale et végétale, l'abbaye de Saint-Julien du vaste monde semblait assoupie dans les brouillards légers de ce matin d'octobre. Bâtie au fond d'un vallon sauvage et beau, propice au recueillement, surplombant un gouffre sombre, isolée des bruits du monde dans son édredon de verdure, l'imposante bâtisse paraissait éternelle. Mais seul le bruit glacé de la cascade avait traversé les siècles sans en être affecté. Qu'il était loin le temps des splendeurs à Saint-Julien, le temps où 60 moniales et 2 confesseurs rythmaient de leurs chants les saisons et les heures. Loin aussi le temps où la chocolaterie tournait à plein, nourrie en permanence des fèves de cacao qui arrivaient régulièrement d'Amérique du Sud. Loin encore le temps où vergers et potagers copiés sur ceux de Versailles faisaient la joie et la fierté des évêques du diocèse. Aujourd'hui, passait l'ombre protectrice des deux immenses cèdres du portail, tout ici criait la vétusté, la misère et l'abandon. Et puis l'humidité s'était infiltrée partout, pourrissant cultures et vieilles pierres. Comme si les ravages matériels ne suffisaient pas, deux sœurs avaient succombé à la grippe et d'autres avaient demandé à quitter une région qui devenait soudain insalubre. Les vocations se faisant rares, chaque décès laissait une place vide à la prière et aux ateliers. Et pour couronner le tout, les visiteurs désertaient aussi et les achats effectués à la petite boutique avaient fondu comme neige au soleil. Leur chocolat était toujours apprécié, mais plutôt que de prendre la route qui menait à leur solitude, les gens préféraient maintenant faire leurs emplettes dans les grandes surfaces qui s'étaient multipliées dans la région. Les finances baissèrent encore. Il arriva même un moment où leurs moyens ne leur permirent plus de se réapprovisionner en fèves de cacao. Faute de matières premières, la chocolaterie cessa sa production et en arrêta de faire tourner les machines. Ce fut comme une blessure secrète pour les sœurs. Quand elles auraient écoulé leurs dernières marchandises, comment survivraient-elles ? La mission d'une communauté était de vivre de son travail. Sans revenu, l'abbaye était menacée de mort. La novice. Au temps de repos, elle traversa le cloître silencieux, troublée du seul grelot de la fontaine, laissa à sa gauche la salle de détente où les moniales lisaient ou faisaient leur correspondance, franchit la barrière de bois qui menait au potager et gagna la clôture. En deux enjambées, elle se hissa dans le cèdre qui touchait le vieux mur, couvert de mousse, et s'installa à la fourche de deux branches. Suffisamment haut pour être cachée, suffisamment haut pour voir de l'autre côté, suffisamment haut pour se sentir en sécurité. Elle balaya des yeux le vallon sauvage, le sillon du torrent dans l'herbe haute, les rochers sombres sur sa droite. Dans les collines qui barraient l'horizon, le soleil caressait les brûlières violettes et elle ferma les yeux pour en mieux humer le parfum. Une alouette solitaire chanta haut très haut dans le ciel pâle et cela la fit frissonner. « Tu es là ? » dit-elle doucement. Une boule de poils gris jaillit des entrailles de l'arbre et se jeta sur ses genoux dans le creux de la chasuble. « Oui, tu es là, dit-elle en embrassant le chat. » Et ses larmes se mirent à couler. Dernier passage, la fin du livre. Dans l'après-midi, quelqu'un cria « les chèvres, elles s'en vont au jardin, attention !» Anne et Jasmine crièrent qu'elles s'en occupaient et foncèrent derrière les fugueuses. Les bêtes n'étaient pas loin. Ayant escaladé le muret du potager, elles dévoraient allègrement les dernières pousses de cresson, pressées, comme si on avait oublié de les nourrir depuis des semaines. Les moniales décidèrent de les laisser manger tranquillement. Elles s'allongèrent sur l'herbe verte, les bras en croix, et regardèrent les nuages courir au-dessus de leur tête. « Vous reviendrez ?» demanda Jasmine au bout d'un long silence. « Bien sûr. Et vous viendrez aussi, on gardera le contact. »« Promis ?»« C'est juré, » répondit Anne en tendant la main. Elle attrapa les doigts de Jasmine et les pressa doucement dans l'herbe. « Promis. » Le soleil fit son apparition derrière les nuages gris et il leur sembla que les oiseaux se mettaient à chanter plus fort. Une alouette se jeta du firmament vers le toit de l'église en poussant un petit cri et une chèvre se mit à bêler. Perché sur le muret de vieille pierre, le chat regardait les deux femmes étendues dans l'herbe. Elles ne parlaient plus, mais il pouvait suivre le cheminement de leurs pensées. Heureux. Un gros nuage cacha le soleil et elles se relevèrent en frissonnant. Les chèvres furent rassemblées, tout le monde remonta vers l'abbaye. Il n'y avait plus qu'un gros chat gris qui léchait la vieille blessure de sa patte. Les nuages se rassemblèrent, se défirent, se rassemblèrent encore, et la nuit tomba enfin sur Saint-Julien. Dans l'église, les femmes se mirent à chanter.
Eh bien, décidément, que serions-nous sans les animaux ?
Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce passage.
Oui, tout à fait, ils sont là. Et j'avoue qu'en vous entendant parler évoquer les chats, je ne peux pas résister, je pense à Tapenade et Pélardon.
Oui.
Les deux chats de Frédéric et moi.
Et moi, qui est la sœur, qui s'appelle Sévenol. Et Sévenol, qui est la sœur de Pélardon et Tapenade, et la chatte qui m'a curieusement aider à écrire mon premier livre, Le silence des sources, parce qu'elle était malade. Et j'ai changé de vie pour m'occuper d'elle. Elle a 13 ans, elle va très bien. Mais j'ai vécu des années dures. Et c'est grâce à elle que j'ai écrit Le silence des sources. C'est vrai.
Eh bien, ça aussi, c'est l'héritage.
Oui.
Nous sommes en plein dans l'héritage. Catherine Vell, merci, tout simplement. Merci de ce très beau moment passé ensemble.
Merci à vous beaucoup.
Merci beaucoup.